liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 6, année 2014. Bon anniversaire, Manu.
Ah, merci, tu es trop bon. Salut, Luc.
Eh bien, parle-nous du sommaire, ce sera ton cadeau.
Oui, un beau cadeau, 8 jolis articles, comme on en a l'habitude. Donc, ce n'était pas une grosse semaine, hein, quand même, globalement. Donc, on va vous parler des voitures et du logiciel libre, de VLC, le logiciel français le plus utilisé dans le monde, les ordinateurs de la région du Val-de-Loire, le vivant et les hackers, la DARPA, la Fondation Eclipse, une interview d'un gars de Terra Nova, dont on nous parlera, et puis finalement un petit article intéressant sur la fabrication du noyau Linux.
Technocar, Linux devrait s'imposer en voiture d'ici 2020, un article de Benoît Solivelas.
Alors, je dirais tout de suite qu'il y a des gens qui deviennent aveugles à l'April quand ils lisent ça, parce que le noyau Linux, ce n'est pas un système d'exploitation, c'est un noyau, et effectivement, un titre en gros, avec vraiment une mise en avant de cet outil-là technique, ça a fait mal au cœur, notamment à Fred Couchet, notre directeur génial, et là, il a pleuré des larmes de sang.
Oui, mais ça, ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas, bon c'est un petit article, hein, il n'y a pas grand-chose de fabuleux dedans, mais bon, c'est intéressant de voir que ça évolue au niveau de l'industrie automobile, bon, qui est un truc traditionnel, qui est un truc sérieux, hein, il y a des impératifs de sécurité. Ils avaient en gros des fournisseurs, des technologies traditionnelles pour gérer toute la partie informatique des voitures, qui est de plus en plus importante.
Donc type QNX et Microsoft.
Et ils sont en train donc, de, semble-t-il, de passer à des solutions sur du noyau Linux, notamment avec de l'Android.
Et là, il y a une étude faite par des gens qui sont dans le domaine de l'automobile, IHS Automotive, qui dit qu'ils seraient en ce moment en train de s'implanter sur 30% des parts de marché mondial, et ils sont en train d'envisager du 40%, ce qui est pas anodin, parce que c'est des gros volumes, c'est des millions d'unités tous les ans. Donc le fait qu'on voit du logiciel libre qui s'implante dans ces milieux-là, ça poursuit un peu ce qu'on a dit dans le passé. Les industriels ont tendance à céder entre elles, finalement, en misant sur un pot commun, qui est du logiciel libre, qui a cette facilité à être travaillé à plusieurs. Donc voilà. Moi, j'applaudis, j'apprécie énormément le fait que ce soit des voitures, ça ne gâche pas mon plaisir, parce que c'est quelque chose qu'on a partout dans le monde.
Et l'industrie automobile est quand même réputée pour être assez conservatrice.
Grave, oui.
Voilà, et donc le fait qu'ils s'y mettent, ça montre que ça arrive à un niveau de maturité vraiment important. Les numériques, interview, tout savoir sur VLC, le logiciel français le plus utilisé, un article de Vincent Alzieux, et qui est une interview de Jean-Baptiste Kempf.
Et donc je ne savais pas, mais le logiciel français le plus utilisé dans le monde, c'est une sacrée remarque à faire ce petit bout de code.
Et oui, VLC, ce lecteur média, qui fait d'ailleurs plus que lire, hein, puisqu'on peut faire l'enregistrement d'écran, des conversions, etc. C'est vraiment le couteau suisse du média. Il n'a pas l'air comme ça, quand on le voit au premier coup d'œil, il a l'air assez banal, mais il fait plein de choses. C'est un logiciel libre, c'est un logiciel développé uniquement par des bénévoles. Il avait commencé à être fait dans une école d'ingénieurs, je crois.
C'est l'école de Centrale Paris, et donc plein de petits gars très intelligents qui se sont fait la main et ont produit un logiciel qui est merveilleux et qui est reconnu comme tel partout dans le monde. Notamment, une de ses particularités, c'est qu'il est capable de lire à peu près tous les formats de vidéos existants. Il est embarqué dans des outils, alors il me semble que c'est la Freebox qui embarque un client VLC à l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose qui est reconnu, utilisé partout dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose de conséquent.
Et c'est ce que dit Jean-Baptiste Kempf. Hein, il dit que les lecteurs qu'on a traditionnellement attachés aux systèmes d'exploitation font plein de trucs, sont très compliqués, ils essayent de vendre à l'utilisateur plus de films, plus de machins, donc ils vont implémenter plein de fonctions qui sont en fait des fonctions commerciales pour essayer de pousser l'utilisateur dans telle ou telle direction parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et VLC, c'est pas leur dynamique, ils sont juste là pour faire le meilleur lecteur possible et donc ils concentrent leur énergie sur faire un lecteur qui lit tout ou le maximum de choses possibles. Et ça marche.
Donc moi, je recommanderais à tous ceux qui peuvent s'intéresser à ce genre de problématique d'aller y jeter un œil. C'est pas mal pour des étudiants notamment. Bah oui, et c'est eux qui ont produit l'outil à l'origine. Je suis sûr que c'est un bon moyen de se mettre à du code qui est un peu touchy certes, mais qui peut être intéressant. Et puis repérer un peu partout, hein, leur symbole, c'est le cône de chantier, orange et blanc. Donc quand vous verrez ce petit truc-là, il y a de fortes chances que ce soit du VLC derrière.
Le petit courrier du Val-de-Loire, des ordinateurs financés par la région pour 25 lycéens. Un article de Maxime Davoust.
Donc ça paraît peu, mais c'est quand même un article qui est sympathique, parce qu'il parle d'une opération où enfin on distribue, on aide à acheter des ordinateurs, mais enfin ces ordinateurs viennent avec du logiciel libre.
Et oui, ça change des iPads refilés en masse à des élèves, hein, histoire de montrer que la collectivité est, est en pointe et ne lésine pas sur les moyens et que bon, voilà, les parents peuvent voter derrière. Là, on est sur une opération relativement modeste, mais qui a du sens dans le contexte. Hein. Il ne s'agit pas de faire du clinquant, mais effectivement d'équiper les élèves. Donc il y a une sorte de tarif social en fonction des moyens des familles. Le tarif de l'ordinateur n'est pas le même.
Petit article, mais c'est vraiment pas mal d'avoir des retours locaux. Donc c'est un petit coin et on espère que plein d'autres coins vont renouveler ce genre d'initiative. On apprécie.
Le matin, quand les hackers piratent le vivant, un article de Simon Corr.
Ça y est, enfin, une nouvelle utilisation du libre et des concepts du libre dans un nouveau domaine, c'est génial, non ?
Quel domaine ?
Bah dans le vivant, l'ADN, la génétique, travailler sur des bactéries, des virus, c'est vraiment pas mal. Il y a plein de hackers qui vont pouvoir s'y mettre.
Et ouais, donc l'idée, c'est d'utiliser les principes du logiciel libre, mais dans le domaine de la biologie. Alors ça fait un petit peu peur, parce qu'on se dit que les conséquences peuvent être dramatiques. Bon, ce qui me fait un petit peu rigoler, c'est qu'il y a à peu près 15 ans, j'étais tombé sur un article qui disait que ça se faisait aux États-Unis et que le gars qui avait lancé ça avait publié de la doc sur comment on pouvait faire soi-même de la biologie et partager tous les résultats. Et l'article là dit que hop hop hop, c'est tout nouveau, etc. Donc c'est pas très bien documenté, je pense, et j'ai déjà revu passer une fois ou deux, hein, même si c'est pas énormément de gens qui font ça, mais en tout cas ça se fait en France, et c'est intéressant. Alors évidemment ça pose plein de questions.
Oui, puis ça fait peur surtout parce qu'on ne maîtrise pas, mais moi je rappellerai, tous les domaines, toutes les technologies peuvent faire ce genre de peur-là, parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas forcément ce qu'on utilise au jour le jour. Eux, ces hackers, risquent de maîtriser des choses qui sont relatives à nos corps, donc quelque chose d'important, mais à d'autres moments, on a pu faire la même remarque sur le monde de la chimie, le monde de l'automobile, où des hackers, des gens commençaient à maîtriser des processus que le reste de la société ne connaissait pas, ou peu. Et effectivement, avec de la chimie, on peut faire des gaz de combat, par exemple. Et oui, bien sûr, des hackers qui hackent la biologie pourront faire des bêtises, mais le tout, c'est qu'on soit tous compétents ou un peu plus compétents, et que dans le lot, y a des gens qui sachent contrecarrer les petits cons, hein, qui seront là inévitablement.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, pour l'instant, ils font des yaourts fluorescents, hein, donc il y a plus hostile. Et par rapport à ce que tu dis, il y a cette question aussi de la place de l'informatique dans les outils qu'on a. Et si on reparle de notre histoire de voiture, dont on parlait tout à l'heure, je suis tombé sur un article qui disait que donc, des hackers ont réussi, avec un petit dispositif électronique, à pirater le CAN. Donc le CAN, c'est ce qu'on appelle un bus.
Hein, un bus de données, sûrement.
Voilà, un bus de données, ce qui est un petit peu ambigu quand on parle de voiture, mais en gros, c'est le système informatique qui va gérer tous les systèmes de la bagnole. Et donc, en 5 minutes, ils arrivent à poser leur équipement. Ils travaillent sur une version ultérieure avec un petit module de téléphone portable. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'avec une volonté malveillante, on puisse bloquer les freins de la voiture à distance, alors qu'elle est en plein virage et à grande vitesse. Et donc, c'est ce rapport au monde physique et au danger, ou au contraire, hein, à des systèmes, on l'espère, qui seraient plus performants, mieux, etc. C'est vraiment dans tous les domaines.
Alors moi, je rappellerai quelque chose qui, moi, me permet de me rassurer, et je vous encourage à aller dans ce sens-là, c'est que le libre, le logiciel libre en particulier, c'est une question qui n'est pas technique, c'est une question qui est éthique. Donc, ça me fait plaisir de savoir que les principes du libre sont réutilisés dans des domaines qui ne sont pas le logiciel, et de savoir que c'est de l'éthique qu'on leur permet d'utiliser, parce que c'est des boîtes à outils, c'est plein de pensées, ça me fait plaisir et ça me rassure.
Silicone.fr, la DARPA publie un catalogue de projets open source, un article de David Feuget.
DARPA, ça veut dire quoi déjà ? Tu te rappelles, toi ?
Alors, je ne sais plus exactement, mais c'est l'agence américaine de recherche militaire. Donc, c'est un truc énorme, c'est monstrueux, c'est-à-dire que le budget de la DARPA est à peu près équivalent au budget de toute l'armée française, donc c'est un truc considérable. C'est aussi un moyen pour le gouvernement américain de subventionner son industrie au travers de la recherche militaire. Ils font plein de trucs qui, des fois, ne sont pas vraiment en lien avec l'armée, mais ça leur permet d'introduire de l'argent auprès des entreprises américaines sans avoir l'air de le faire.
Donc moi, j'ai pas regardé dans ce catalogue. D'après ce qu'il en est dit, c'est que c'est quelque chose d'assez considérable, en taille, en volume, probablement en qualité, parce que justement, c'est des chercheurs qui sont à la pointe. Donc,
après ça, ils passent des contrats avec des boîtes aussi, hein, donc il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais on se rappelle qu'ils ont financé des trucs qui nous intéressent d'assez près, il y a fort longtemps.
Tu penses à des choses en particulier ?
Un truc qui s'appelle Internet, et qui est effectivement avait été développé sur des budgets de recherche de défense américain. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez suivre le lien et voir ce qui existe comme logiciel.
On peut encourager à ce que les chercheurs français fassent la même chose.
On peut toujours espérer. Journal du Net, la Fondation Eclipse fête ses 10 ans, un article d'Antoine Crochet-Damet.
Alors généralement, on ne parle pas de logiciel de manière aussi précise, mais là, c'est une fondation. Donc Eclipse, c'est le logiciel qui est concerné, mais la fondation ne fait pas que ça finalement. Ça tourne tout autour et surtout, ça regroupe plein de gens qui arrivent à travailler ensemble depuis 10 ans, ce qui n'est pas rien.
Donc ça a été initialement monté par IBM pour faire du Java, hein, la technologie Java, si j'ai tout bien compris.
Un environnement de développement qui s'appelle Eclipse, donc.
Voilà, donc sachant que derrière, il y avait une petite blague, puisqu'à l'époque, il y avait une entreprise qui s'appelait Sun.
Oui, c'était...
Et donc quand on a... son organisation Eclipse.
C'est une sale blague, c'est une voilà. sale blague, mais pourquoi pas, après tout, c'est des farceurs. Hein.
Voilà, bon, bah Sun était racheté par Oracle suite à de gros problèmes financiers, donc Eclipse a gagné. Et là, c'est un petit retour avec ces 10 ans où il y a 247 projets couverts, 205 membres qui travaillent au sein de cette organisation.
Donc ça fait plaisir de voir que justement, en utilisant du libre, on peut se concerter, travailler ensemble, arriver à construire des trucs sur la durée. Donc c'est complètement notre propos, on apprécie.
PC Impact, Jacques Soré de Terra Nova nous parle d'e-administration, une interview de Xavier Berne.
Donc Terra Nova, toi, ça te parle?
Alors, c'est un think tank qui est plutôt proche du PS, et on le voit d'ailleurs bien dans l'interview, hein, parce qu'ils tapent sur Sarkozy et les 5 ans perdus pendant Sarkozy, et disent que bon, le gouvernement fait plutôt pas mal, même s'il y a plein de progrès. Mais bon, le gars a l'air quand même de connaître son sujet. Ça parle d'administration, mais c'est pas uniquement la dématérialisation.
Oui, hein, ils en parlent. C'est la dématérialisation, c'est un moyen, mais c'est pas le plus intéressant.
Un des trucs vraiment sympa qu'on retrouve là-dedans, c'est qu'il dit, bah, c'est une chose qu'on remonte assez souvent, hein, qui se fait aux États-Unis notamment, c'est dire à partir du moment où une donnée ou des éléments ont été produits avec de l'argent public, il faut que ces données soient publiques également. Or, on a tendance en France à avoir des logiques de puisqu'on a moins de budget, les administrations ou les établissements publics vont vendre le résultat de leur travail.
Oui, ils vont essayer de monétiser, alors que ça devrait être, par définition, dans le domaine public.
Oui, ou sous licence libre. Et ce qui permettrait à des entreprises, et il y a effectivement ce truc de dire « oui, mais on va faire ça, des entreprises vont faire de l'argent avec », mais c'est très bien, puisque à partir du moment où les entreprises françaises font de l'argent avec ces trucs-là, eh ben, ça revient dans les caisses de l'État au travers des impôts, et c'est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus sain dans le principe d'une administration qui n'est pas là pour faire du bénéfice, de passer par ce circuit-là.
Alors, il y a peut-être un truc qui est quand même un peu négatif, c'est là, le journaliste lui demande comment ça se fait qu'il ne parle pas de logiciel libre, et la réponse est un peu étrange, je trouve.
Oui, alors il dit, je ne parle pas de logiciel libre parce que je voulais pas faire peur, que je voulais pas faire un truc technique, mais que le logiciel libre, c'est super, c'est vraiment le truc impératif, etc. Donc c'est assez rigolo, et surtout sur le fait de dire que, tu le disais il y a juste quelques minutes, le logiciel libre, c'est pas une question technique.
C'est une question d'éthique. Donc effectivement, il a un peu raté le coche, mais c'est pas grave, parce que par ailleurs, il a quand même de bonnes idées.
Bah, après, il faut voir. Ce qui serait intéressant, c'est est-ce que ce blocage qu'il a senti, il est probablement effectivement pro-libre. Peut-être que c'est un sujet qui fâche, peut-être que c'est un sujet qui fait peur parce que derrière il y a de l'idéal, etc., et qu'on voudrait des trucs hein, où il y ait pas de, on parle pas de liberté et où on soit vraiment pragmatique. C'est peut-être ça, je sais pas. Informatique News, qui fabrique Linux? Un article de Guy Hervier.
Alors Linux, le noyau Linux, là il s'agit vraiment du sujet qui correspond au titre.
Donc le noyau Linux, qu'on retrouve mais vraiment dans plein de trucs, dans les distributions GNU Linux,
bien sûr,
systèmes d'exploitation, dans Android par exemple.
Exactement, qui est une distribution qui contient Linux comme son cœur.
Dans une grande majorité de supercalculateurs par exemple, la NASA l'utilise, enfin on retrouve vraiment dans plein d'équipements.
Et probablement dans des endroits qui sont insoupçonnés, hein, peut-être dans des frigidaires ou des fours, allez savoir.
Là, l'article revient sur le fonctionnement de la fondation, c'est-à-dire cette organisation qui, un petit peu comme Eclipse d'ailleurs, fait travailler des tas de gens ensemble pour produire cette brique essentielle, cette clé de voûte logicielle.
Donc c'est intéressant, allez jeter un œil parce que c'est quand même des connaissances qui sont pertinentes dans notre monde aujourd'hui. Ce que j'apprécie le plus là-dedans, c'est le fait qu'on arrive à faire travailler des gens qui sont dispersés dans le monde entier. Ils sont des milliers, il y a des centaines d'entreprises. Justement, il y a des statistiques qui sont un peu remontées à ce propos. Ils parlent de la taille du noyau, parce qu'on peut mesurer tout ça, c'est mesuré. Des évolutions dans le temps, de la manière dont ils travaillent ensemble, de la manière dont ils assurent la stabilité du code. C'est vraiment des problématiques qui ne sont pas simples. Moi, je les rencontre à des échelles bien plus ridicules, quelques dizaines de personnes. Et arriver à faire bosser ensemble dans des cycles assez rapides des milliers de hackers, c'est vraiment pas simple et c'est très, très impressionnant.
Et c'est même pas nécessairement des hackers, puisque l'essentiel des contributeurs aujourd'hui sont des entreprises, donc des gens qui sont payés pour ça. Par le passé, il y avait beaucoup de contributeurs bénévoles. Aujourd'hui, ça a changé. Donc ça montre d'une part qu'on peut être une grosse entreprise, parce que là-dedans, c'est quand même des grosses boîtes. Il y a IBM, il y a China Telecom et des choses comme ça.
Moi, ils remontent parce que forcément, ils financent pas mal de ces geeks à bosser sur le noyau. Mais en fait, il y a plein d'entreprises qui, un moment ou un autre, ont un intérêt à y coder. Mmh. Même Microsoft l'a fait hein, et continue à le faire. Donc c'est pas anodin. Et
mais ça montre en tout cas que même quand on est une entreprise, et il y a souvent un peu du discours anti-entreprise en disant oui, mais voilà, tout ce qui les intéresse, c'est pognon, etc. Ils savent parfaitement coopérer entre eux sur un projet de ce type-là. Si on cherche une alternative, on peut voir que les entreprises l'ont déjà trouvé. Et ça démontre totalement l'argument selon lequel c'est comment dire, quelque chose fait par quelques barbus dans leur coin.
Oui, que c'est utopiste et que ça ne sert à rien. Voilà. Là, on peut le constater. Allez, jeter un œil. Hein.
Et l'exemple de VLC, hein, le logiciel français le plus utilisé dans le monde, est un logiciel libre fait par des bénévoles.
Donc sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Manu et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.